Chers frères et sœurs, c'est une nouvelle occasion de partager ensemble le pain du ciel et de nous réjouir, nous fortifier au moins une fois par semaine. Dans la foi qui nous est commune, comme disait l'apôtre, et pour être encouragé dans ces temps qui deviennent de plus en plus difficiles. Nous l'expérimentons les uns les autres de tous côtés. Le mal augmente et la prophétie du Seigneur s'accomplit. Quand il annonçait devant le temple et sur la colline à ses disciples la fin des temps et qu'ils lui demandèrent « Dis-nous, quand et comment cela arrivera ?» Et il va citer une phrase excessivement importante et affligeante même pour nous dans ces derniers temps, en disant « L'iniquité, la transgression, se sera tellement accomplie que la charité du plus grand nombre se refroidira. » Plus de charité, c'est-à-dire la charité biblique, l'agapé, plus d'agapé, plus de charité, plus d'affection, plus d'amitié, plus de compassion. Ainsi, cela rejoint les paroles de l'apôtre Paul, et qui nous disait aussi, dans les derniers temps, les humains, les hommes et les femmes seront ainsi. Et il dit, sans compassion, sans pitié. C'est terrible. Et nous sommes, peuple de Dieu, dispersés au milieu d'une génération qui est ainsi, sans compassion, sans pitié, déloyal, rajoute-t-il, calomniateur, rebelle à ses parents, éloigne-toi de ces gens-là. Ce que nous oublions, chers frères et sœurs, la plupart du temps, c'est que l'apôtre Paul, dans cette épître à Timothée, où il décrit les êtres de la fin du temps, les personnes de la fin des temps, nous pensons aux non-croyants. Parce qu'il n'y a qu'eux qui sont vraiment méchants. Or, lui était en train d'instruire Timothée de l'avenir de l'Église. Quand il parle de ces hommes, il parle des chrétiens. Je vous ai dit, c'est une parole terrible. Alors, tous ne sont pas ainsi, rassurons-nous. Mais dans ce presque 2 milliards de croyants ou de gens qui disent « je suis chrétien », combien y en a-t-il qui obéissent à la parole du Seigneur et qui font tout pour conserver dans le cœur, leur cœur, l'amour de Dieu ? Si quelqu'un n'aime pas son frère, il demeure dans les ténèbres. Et combien cet épître de Jean, cet épître sur l'amour, à la fin du premier siècle, où l'on pensait que ce serait la fin des temps, à cette époque-là, où Jean, le dernier des apôtres, prend sa plume pour écrire sur l'amour. C'est qu'il se souvenait de ce verset. La transgression se sera tellement augmentée, exponentiellement augmentée, que la charité du plus grand nombre disparaîtra, dans une autre version. Alors, j'arrête mes commentaires qui ne sont pas sur le sujet dont je voulais vous entretenir aujourd'hui. Quand notre frère Lionel m'a dit « De quoi vas-tu parler ?» J'ai dit « Je vais parler de ce que je vous avais promis de vous parler la dernière fois. » Je vous avais parlé du fruit de l'Esprit, si vous vous en rappelez. Le fruit de l'Esprit qui, dans Galates 5, 22 et la suite, a 9 manifestations ou 9, comme sur une pierre précieuse, vous savez, il y a 9 facettes de ce fruit. Nous pensons toujours à un arbre chargé, hein, et pourtant, il s'agit d'un fruit. Le fruit de l'Esprit. Et nous avions partagé ensemble que, en fait, ce travail du Saint-Esprit dans le cœur du croyant, justement, l'amène à avoir cette pierre précieuse intérieure avec toutes ses facettes, toutes les facettes de l'arc-en-ciel qui étaient les vertus de notre Seigneur Jésus pour lui ressembler. Il les rassemblait, les 9, 3 × 3. Je vous signale juste, c'est ce symbole que nous trouvons souvent dans l'Écriture. Le Seigneur, sous toutes les facettes dont on pouvait essayer de l'observer ou de le contredire, nous ne trouvions pas de faille. Elle nous a invités. Et maintenant, je voulais vous parler aujourd'hui de cette seconde partie que j'ai trouvée aussi dans l'Écriture, bien entendu, sur la manifestation de ces 9 facettes. Car il y a toujours la beauté intérieure, mais si elle n'a aucune manifestation à l'extérieur de notre vie, il faut nous poser des questions. Hier, je passais sur un marché et j'ai vu une noix de coco sculptée. Je me demandais, qu'est-ce que c'est ? Je regarde bien. C'était une lampe, mais comme elle n'était pas allumée, j'ai pas reconnu que c'était une lampe. C'était simplement une noix de coco qu'on avait bien sculptée et qui était là, posée sur la table. Après, en m'approchant, j'ai vu derrière le fil électrique. Ah, c'est une lampe, mais elle n'est pas allumée. On ne peut pas savoir. Et pourtant, le travail de la sculpture était très intéressant pour moi qui suis un peu chineur, collectionneur, vous voyez, je me disais, oh, un objet intéressant. Et j'ai pensé à chacun d'entre nous, si nous sommes des lampes bien sculptées, mais non allumées, on va se poser des questions. Tout le monde dit, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, j'ai trouvé aussi une merveilleuse représentation dans la nature de ce fameux fruit de l'esprit, qui a différentes manifestations intérieures et même extérieures. Alors, c'est un fruit commun que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous aimez, c'est la figue. Si vous aimez la figue. Alors, en allant me renseigner un petit peu sur la figue, j'apprends que la figue n'est pas un fruit. C'est une fleur. Mais qu'elle a sa fructification, elle a ses fleurs à l'intérieur du fruit. C'est dedans que les fleurs paraissent, qu'elles mûrissent et qu'elles donnent leurs fruits. Il y a cette chair succulente et il y a ces petites graines. Elles fructifient à l'intérieur. Bon, bien sûr, quand elle a mûri, qu'est-ce qui se passe? Elle se fend, vous les voyez? Elle se fend, vous savez, qu'on est presque, qu'on est au moment de la manger. Hein? Elle se fend sur les côtés. Si vous ne la touchez pas et que vous la laissez, elle va s'ouvrir comme une étoile et elle va laisser emporter au vent et tomber par terre les petites graines pour se ressemer. Hein? Eh bien, nous sommes ainsi. Nous sommes une fleur enveloppée. De l'extérieur, on ne voit pas le fruit. On croit que la fleur est le fruit, mais on ne voit pas. Il faut le mûrissement pour que le fruit apparaisse. Il était caché avec les fleurs à l'intérieur. Et c'est extraordinaire parce que on voit les figuiers dans l'Écriture, tout au long de l'Écriture. Et Israël est comparé à un figuier. Le peuple de Dieu est comparé à un figuier. Vous le savez, Jésus sur le mont des Oliviers, voyant le figuier, dit à ses apôtres, « Quand vous voyez les bourgeons sortir, vous savez que l'été est proche. » Et puis après, il y a l'autre fois, où dans la semaine sainte, voyant ce figuier extrêmement feuillu, très très beau, mais sans fruit, il va le maudire. Bon, bien sûr, ne vous laissez pas arrêter par la citation qui dit « Ce n'était pas la saison des figues. » Mais c'est voulu. Comment ? Parce que c'est la représentation qui compte. Ce n'est pas simplement le symbole, c'est la vérité. Comment Israël se permet de ne pas porter du fruit lorsque le Messie arrive? C'est ça qui a engendré la malédiction. Ce n'est pas la saison naturelle. C'est que pour Israël, ça aurait dû être la saison. Ça aurait dû être la saison, le Messie est là. Il faut porter du fruit en l'accueillant et en exerçant la foi. Alors, chers frères et sœurs, je m'excuse de vous comparer à des figues, et moi aussi. Il y a des figues sèches, vous le savez. On est là, elle est magnifique, on s'approche de l'arbre, on la décroche, c'est un peu élastique. On l'ouvre, c'est tout sec à l'intérieur. Elle avait l'apparence et elle n'était pas. Alors, dans Matthieu au chapitre 25, le Seigneur va parler dans ses messages prophétiques, justement près de l'endroit où on lui pose des questions sur la fin des temps. Au verset 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Et c'est un chapitre où il y a trois ou quatre paraboles, bien que les commentateurs pensent que ce récit sur la fin et le jugement n'est pas une parabole, mais un texte prophétique. Mais il est donné par le Seigneur comme une parabole, c'est-à-dire pour nous faire avancer dans la compréhension de la volonté de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations, tous les peuples seront assemblés devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Je précise, pour ceux qui aiment la nature et qui ne sont pas au fait comme moi-même je ne l'étais pas jusqu'à ce que je me renseigne, au fait de pourquoi on sépare les brebis et les chèvres. Les brebis et les chèvres vivent ensemble pendant la journée. Mais le soir, pour éviter des coups de corne mal placé et des disputes sur le lieu du sommeil, le berger, en Orient, séparait les bêtes à cornes des bêtes sans cornes. De plus, la chèvre, nous est-il dit, aime beaucoup la chaleur et les coins très chauds. Donc, si vous les mettez dans une bergerie, elles vont prendre les emplacements les plus chauds et se coller contre le mouton en le repoussant vers l'extérieur. Mais le mouton, lui, aime bien vivre en plein air. Alors, ce sont deux bêtes qu'on met ensemble, ça protège le troupeau, ça le fait avancer. Mais le soir, au moment du repos, on ne peut pas les garder ensemble. Alors le berger va séparer les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, à la place d'honneur, et les boucs, les bêtes à cornes, de l'autre côté, à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Je vous laisse, chers frères et sœurs, chers amis, choisir votre place. » Vous avez le choix. Vous pouvez être à droite, vous pouvez être à gauche. Vous pouvez choisir aussi votre propre nature. Vous sentez-vous chèvre ou vous sentez-vous mouton? Venez, dit-il, à ceux qui sont à sa droite, donc les brebis, les moutons, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, ah oui, pourquoi Seigneur? Pourquoi ce choix? Pourquoi pas les chèvres aussi? Pourquoi? Ah ben, je vais vous expliquer pourquoi, nous dit le Seigneur. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli ou recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et comme eux, Seigneur, quand est-ce que j'ai fait tout ça pour toi? Quand et comment? Seigneur, verset 37, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité ou en hébreu, amen, amen. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Nous avons l'explication. Mais nous avons aussi là, chers frères et sœurs, la manifestation de ce fruit de l'esprit, de ce fruit enveloppé qui produit à l'intérieur ses propres fleurs avant de donner à la récolte les graines et sa chair pour nourrir les êtres humains, pour nourrir le monde. Oui, si nous avons 9 facettes du caractère du Christ à développer en nous par la foi, par la lecture, par la prière, par la méditation des Écritures, par la fréquentation de l'Église où on entend la parole de Dieu, nous avons aussi l'engagement ou l'appel du Seigneur à manifester extérieurement cette charité, cet agapé dont le monde a intensément besoin pour être sauvé, pas simplement pour en profiter. Nous avons besoin de distribuer le fruit aux hommes, aux êtres humains. C'est ce que le Seigneur a fait. Et le Seigneur dit que, donc, le critère de tri pour participer à ce royaume que le Seigneur a préparé pour les siens. J'espère que vous attendez avec impatience ce royaume préparé pour les siens. Dès avant la fondation du monde, nous dira un autre texte. Un royaume de justice, de paix et d'amour. Un royaume merveilleux. Une situation paradisiaque, absence totale de péché, de méchanceté, de contrariété. La paix, l'amour, la joie, le partage. En permanence et pour tous. Eh bien, ce royaume est notre entrée et notre participation à ce royaume est conditionnée par le fait que nous aurons nourri et secouru le Christ sur la terre en la personne de ses plus petits, de ses frères. Alors, j'étais en train d'étudier ce matin ses frères. Qui? Les membres de l'Église ou tous les êtres humains? Eh bien, c'est très difficile. Mais si on reste dans la pensée de l'auteur de ce texte, tous les hommes qui, par les bienfaits que nous leur avons apportés, deviendront ses frères. Et comme nous ne savons pas qui doit devenir le frère et la sœur du Christ, il nous faut agir dans cet amour envers tout le monde. Et c'est ainsi cette manifestation, ces six fruits extérieurs. Tout à l'heure, nous avions neuf aspects du travail du Saint-Esprit dans nos vies. Et là, vous avez six fruits extérieurs. La faim, la soif, six actions qui vont pouvoir lutter contre la faim, contre la soif, contre la xénophobie ou le rejet de l'étranger ou l'abandon de l'étranger à ses problèmes, la nudité, le manque de vêtements, la maladie et l'emprisonnement. Six actions dans lesquelles nous sommes invités individuellement et collectivement en Église à entrer pour le service du Seigneur. L'armée du salut l'avait compris il y a plus d'un siècle. Soupe, savon, salut. Et nous connaissons le travail mondial et les résultats mondiaux de cette action. Alors, je ne vous invite pas ce matin à remplacer l'armée du salut. Je veux simplement donner pour nous des indications de la part du Seigneur sur comment lutter contre cette désertification de l'amour en nous, au milieu de nous et autour de nous. Ces six actions bonnes qui nous feront entrer dans le royaume de Dieu. Alors, bien entendu, bien sûr, je rappelle que le salut est par la foi. Mais la foi sans les œuvres est morte. Épître de Jacques. La foi, c'est une vie. C'est la vie du Seigneur qui s'exprime. La foi veut dire fidélité et confiance. Fidélité à la personne et à l'œuvre du Seigneur Jésus, exprimé dans la Sainte-Cène, symboliquement. Mais c'est aussi la confiance. Mettre sa confiance en Jésus pour faire comme Jésus. Avoir vraiment la foi. C'est l'Écriture qui le dit. Et nous sommes sauvés par la foi, par une foi vivante, une foi agissante, une foi qui nous transforme, une foi qui nous régénère, une foi qui nous fait changer de bouc à brebis. Si votre foi vous a laissé avec des cornes sur la tête, il y a un problème. J'aime les chèvres aussi. J'aime tous les animaux. Et le Seigneur aimait tous les animaux. C'est simplement que dans la Bible, bouc en hébreu est synonyme de démon. Et c'est pour ça qu'on a représenté dans l'histoire du monde souvent le diable avec des cornes et des pieds de bouc. Mais le Seigneur aime tous les animaux. C'est simplement que il s'en sert comme symbole de certaines vérités. C'est surtout que, je ne sais pas si vous avez déjà caressé un bouc. Non, ça pue. Ça pue le bouc. Et je vous assure, j'ai dû laver ma main pendant 3 jours. Il a une mauvaise odeur, une sueur, un suin, si ça vient sur vos mains, il faudra vous laver longtemps pour enlever l'odeur du bouc. C'est terrible, terrible. Ça va avec sa représentation. il se bagarre constamment en tapant des cornes contre les gens ou contre les autres animaux, voyez. Et en plus, ils sont horriblement mauvais. Voilà. Donc, nous sommes appelés par le Seigneur. Et je voulais simplement aussi rappeler, chers frères et sœurs, que nous sommes dans une époque très difficile pour chacun d'entre nous, individuellement, mais en Église. Vous le savez. À ce tournant du XXe siècle, dit post-moderne, c'est-à-dire antichrétien, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, c'est le reniement de toute la civilisation judéo-chrétienne et de ce que la parole de Dieu avait apporté dans le monde. Alors évidemment, tout n'était pas parfait, certes, hein, mais au moins, les commandements de Dieu étaient quand même à l'esprit, même de ceux qui nous gouvernaient. Or, ce n'est plus du tout le cas. Les commandements de Dieu n'existent plus, ne sont jamais cités. Et l'Église, à ce tournant, je l'ai vu, hein, je l'ai vu parce que je circule un peu de partout, et parce que je suis aussi moi-même d'une Église, l'Église ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Pour répondre aux demandes de nos concitoyens. Alors, beaucoup se sont égarés en changeant l'ambiance, en la rendant un peu pop-rock. Ils pensaient que ce serait une solution, je veux dire, à la désaffection de l'Église. Mais c'est pas l'ambiance. C'est l'Esprit-Saint. C'est l'agapé. C'est l'amour de Dieu qui est dans l'Église, qui attire, sans faire beaucoup de publicité. Et vous savez pourquoi? Parce que cet amour se manifeste tout le long de la semaine par chacun des membres de la communauté, auprès de son voisin, de sa voisine, de son collègue de travail, qui voit et ressent de l'amour et dit « Où tu prends ça ?»« Eh bien, viens avec moi à l'église. » C'est là-bas qu'on en fabrique beaucoup de l'amour et qu'on le partage avec tout l'environnement. Vous voyez ? La solution, chers frères et sœurs, on est là, mais il faut changer de méthode, il faut changer de style. Ça marche pas. Ça marche pas. Nous avons vu, ne serait-ce que par le changement des recueils de chants, où il y a de très bonnes choses partout, vous l'avez vu, hein. Hein? On était dans les ailes de la foi, on est passé à toi la gloire, après à toi la gloire, on est passé au j'aime, 1, 2, 3, 4. Il y en a qui sont passés à Asaph, d'autres sont passés au recueil Hillsong, où il y a aussi des choses intéressantes, c'est vrai. Tant d'essais hymnologiques qui marquent le fait qu'on se cherche et qu'on cherche des méthodes pour attirer nos concitoyens. Et si vous les aimez, vous n'aurez pas besoin de jouer de la guitare rock. Si vous les aimez, pratiquement. Si vous voulez leur apporter cette douceur de la figue mûre, blanche ou brune ou violette, hein, si vous leur apportez cette douceur dans leur vie, vous verrez que vous n'aurez pas besoin de jouer de la batterie ou de la guitare. Et je ne suis pas en train de parler contre les batteries et les guitares. Je joue moi-même de la guitare et dans mon église, il y a une batterie. Voilà. Je suis en train de vous dire que ce fruit de l'esprit doit se manifester et nous aider à vaincre la torpeur, les interrogations. Que faire? Mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferons-nous pour répondre à ceux qui nous disent « Vous ne servez à rien, vous n'êtes qu'une orientation spirituelle en plus des autres, vous ne servez à rien. » Ah bon? Eh bien, on va servir. On va aider. Et c'est ainsi que nous rendons avec les responsables de nos églises, nous rendons, puisque j'étais vice-président de l'Alliance évangélique autrefois, à Marseille, nous rendions auprès de nos autorités, nous leur avons proposé des actions concrètes auprès de nos concitoyens. Alors, il y avait des actions sociales, c'est vrai. Il y avait des actions de nettoyage de la ville. Ils étaient très sensibles. On se demande pourquoi. Alors, il a été ouvert des accueils d'urgence en collaboration avec l'Armée du Salut et d'autres choses. L'Armée du Salut, elle faisait ses petits déjeuners du matin, vous le savez, et puis son grand déjeuner du jour de l'an, où on était invité à amener des écharpes et des bonnets pour tous les SDF qui étaient invités au repas. J'ai participé en tant que SDF évangéliste. Hein? Et donc, je me suis réjoui de toutes ces actions, hein, qui donnaient corps à l'Église, qui donnaient corps et sens à notre vie. Et bien sûr, je le répète, ce n'était pas pour nous justifier, hein. Ce n'était pas pour acquérir le salut de la part de Dieu, hein. Simplement son approbation. Ça, c'est ce qu'il veut. C'est que l'Église répande la vie autour d'elle, afin que, vraiment, le Seigneur puisse faire rentrer les plus petits de ses frères dans le royaume de Dieu. Mais on parle de fruits, on parle d'actions bénéfiques. La caractéristique de ces fruits de vie, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est qu'ils demeurent pour la vie éternelle. Si nous voulons peser le caractère et l'utilité de notre action dans ce monde, il faut que cela demeure pour la vie éternelle. Alors, pas simplement, on ne s'arrêtera pas sur le symbole, sur la distribution de vêtements et de bonnets et d'écharpes. Mais il faut que derrière tout ce travail, quelque chose demeure pour la vie éternelle. Et qu'est-ce qui va demeurer pour la vie éternelle ? Les âmes de ceux qui auront compris l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans son Église, dans ses membres. Et c'est ce qui apparaîtra donc à la fin du monde, à la fin des temps, au jugement dernier. Ouh, mais Seigneur, quand est-ce qu'on a fait ça ? C'est à moi que vous l'avez fait quand vous l'avez fait à ces pauvres gens qui sont devenus maintenant vos frères parce que vous les avez gagnés. Alors nous devons nous interroger, chers frères et sœurs, sur le fruit interne, les 9 manifestations, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, l'amour fraternel, l'agapé, certes. Et puis nous devons aussi nous interroger sur le caractère de permanence de nos travaux, de nos actions pour la gloire de Dieu, de ce que je fais dans ce monde. Qu'est-ce qui restera à la fin ? Ma véritable motivation n'est pas l'humanisme. Il y en a déjà beaucoup qui font dans ce domaine. Et je les en félicite. Et des fois, je suis vraiment étonné. Je suis passé devant le local du Secours Populaire, là-bas à Frévalon. J'ai dit, les gars, ils ont vraiment quelque chose dans le ventre. À Frévalon, ouvrir un local du Secours Populaire, vous voyez ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quelle est votre motivation ? Quelle est la force ? Est donné à votre action, alors que souvent on constate qu'il n'y a aucune reconnaissance, ni pour eux, ni pour le Secours catholique, ni pour l'Armée du Salut. Nous agirons non pas par humanisme, non pas pour gagner notre salut, non pas pour nous occuper aussi agréablement. Cette semaine, une de mes collègues a eu le privilège de partir à la retraite. Nous sommes dans un temps tellement fou que partir à la retraite, c'est devenu un privilège. Alors qu'avant, les gens partaient en pleurant. Parce qu'ils le ressentaient comme la fin de la vie. Et maintenant, les gens dansent de joie en partant à la retraite. Mais le débat était aussi, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'occuper au moins à ta retraite. Tu vas faire quelque chose. Attention, si tu ne fais rien, tu vas vieillir brutalement. Ah oui, alors j'ai prévu de faire des voyages, de faire ceci, de faire cela, peut-être même de m'inscrire dans une action associative pour aider tout ça. Et nous, chers frères et sœurs, et nous, que ferons-nous? Alors, pour conclure, Jean 15, très connu, il nous parle toujours de fleurs, de plantes, de fruits. Je suis le vrai cep, au verset 1, et mon père est le vigneron. On n'oublie pas. Il ne faut pas oublier, nous ne sommes pas les vignerons. C'est Dieu, notre Père, qui est le vigneron, et Jésus, qui est cette plante sur laquelle nous sommes greffés. Tout sarment qui est en moi, j'aime bien, vous voyez, hein, tout sarment qui est en moi. Et c'est vrai que quand vous regardez un cep de vigne vivant, le sarment est là, il est en lui, hein. Vraiment, il rentre comme s'il était à l'intérieur du bois, du tronc. Il est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Pas si vous avez eu l'occasion de vous occuper de vignes, faut couper le bois mort, hein, ou d'arbres. Il faut enlever les branches mortes. Elles occupent le terrain, ça ne sert à rien. Hein, elles gênent. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il le taille, on laisse deux nœuds. Vous savez, deux yeux. On en laisse deux. Au cas où il y en a un des deux qui gèlerait. Hein, ouais. On laisse deux. Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est aussi un encouragement pour chacun d'entre nous qui portant aussi des souffrances dans notre vie en disant, pourquoi tout ça? Tu es émondé, mon frère, ma soeur. Le Seigneur enlève l'inutile dans ta vie. Et ça fait mal en coupant. Mais c'est pour que tu portes encore plus de fruits dans ta situation. Et il faut le comprendre et ne pas sombrer dans la résignation ou dans la douleur en disant c'est le manque de chance, c'est le malheur qui m'a atteint, hein, et qui veut pas me lâcher. Non, c'est le Seigneur qui t'émonde. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous, la circulation de la sève. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi, en mes paroles et en mes actions. La personne est l'œuvre, toujours, la personne est l'œuvre. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Chers frères et sœurs, dans ce passage qui est plus long, avez-vous vu le mot « travailler » ? Il a porté du fruit. C'est pas un travail. C'est simplement laisser agir la vie de Jésus en nous. C'est l'énergie de la vie du Seigneur Jésus et de son amour qui, si nous ouvrons nos portes et restons près de lui, de son enseignement et de son exemple, c'est-à-dire en lui, ça, le fruit vient. Il y a des émondements, c'est vrai. Il y a des coupures, ça fait mal, mais c'est normal. c'est pour que ça devienne encore plus fort, encore, et que ça porte encore plus de fruits. Puissions-nous, chers frères et sœurs, être encouragés en sachant que ce matin, je ne vous ai pas parlé de faire des œuvres bonnes, je ne vous ai pas parlé de travailler pour gagner votre salut. Je serai dans l'erreur. Je vous ai parlé de rester près du Seigneur Jésus pour porter déjà le fruit de l'Esprit à 9 à 7 et plus tard, à la récolte, un plus grand fruit encore qui vient se répandre sur le monde par l'amour que nous manifestons à ses plus petits de ses frères. Ainsi, si vous passez devant quelqu'un qui a besoin de cet amour, ne détournez pas votre visage. Faites comme les apôtres. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. La foi et l'assurance que l'amour de Dieu est aussi possible dans toutes les situations. Lève-toi et marche et fais quoi? Eh bien, avec moi, on va boire un café, on va se réchauffer un peu. C'est ça. C'est pas lève-toi et marche et débrouille-toi. C'est lève-toi et marche et viens avec moi. On va te proposer quelque chose. On va te proposer. Je vais essayer de t'aider comme je peux, mais je vais essayer de t'aider. Si tu as faim, je te paierai à manger. Si tu as soif, je te paierai de l'eau et des sodas seulement, pas d'alcool. Mais en fait, c'est une soif de justice, comme nous le lisons dans Matthieu 5. Une soif de paix et d'amour, c'est pas une soif d'alcool. Ça, c'est juste la manifestation extérieure, force du besoin intérieur. Hein? Lève-toi. Alors, que chacun d'entre nous, dans la semaine qui vient, en esprit, en vérité aussi, nous puissions croiser les gens et leur dire « J'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. » L'amour de Jésus et sa manifestation aussi, c'est ce que nous avons lu aujourd'hui. C'est pour ça que nous pouvons aussi travailler en esprit, chers frères et sœurs, parce que nous sommes souvent limités, je pense à nos frères et sœurs dans les maisons de retraite, ou invalides, qui sont invalides. Comment? Que voulez-vous que je fasse? Je ne peux pas aller dans les rues. Je ne peux pas accueillir des SDF. Tu feras quelque chose car le Seigneur va te le montrer. Tu feras quelque chose. C'est certain si tu es disposé à le faire. Et si tu ne peux pas courir avec tes jambes, tu feras comme cet homme célèbre qui était dans un chariot roulant et qui avait écrit un livre, L'homme qui marchait dans sa tête. Il était devenu célèbre, il avait fait le tour du monde, il encourageait les invalides et les handicapés en leur disant, vous savez, on peut marcher dans sa tête si on ne peut pas marcher. Eh bien, que nous puissions aussi marcher par la prière dans nos têtes. Tu ne sais rien faire d'autre. Tu ne peux pas faire d'autre chose. Prie. Prie pour l'Église, prie pour l'Église locale, prie pour l'Église universelle, prie pour l'avènement du Seigneur et son retour, prie pour la conversion de tes voisins, des Marseillais, de ta famille. Prie, et pas simplement 5 minutes par jour. Tu as tout le temps dans ton handicap pour prier. Prie et soutiens l'œuvre de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te prions de rendre vivants et actives ces paroles dans nos vies. En nous ouvrant les yeux sur la misère et la souffrance qui nous entourent, Seigneur, en nous donnant de l'amour, de la compassion dont les hommes de la fin des temps sont privés, hélas. Seigneur, amour, compassion, bienveillance, aide-nous à aider. Aide-nous à faire du bien. Aide-nous à te manifester, à te démontrer à nos concitoyens, simplement par l'amour. Seigneur, nous te bénissons, tu trouveras pour chacun d'entre nous un moyen de développer cet amour à la mesure de ses possibilités aussi. Nous te faisons confiance, c'est là notre foi. Nous ne savons pas faire, mais nos yeux sont sur toi, comme il était écrit. Seigneur, sois béni parce que tu veux le faire, parce que tu veux des êtres vivants. Tu ne veux pas simplement des statues d'argile, mais tu veux dans ta maison des êtres vivants, des êtres aimants, des êtres qui donnent la vie autour d'eux. Seigneur, nous te prions de l'accomplir en nous et de nous permettre de le diffuser au nom de Jésus. Amen. Alors, je voulais simplement vous dire deux choses. Comme exemple, nous avons commencé dans notre église